Bien. Donc, le cours est intitulé « L'art de gouverner la Florence » et la parenthèse nous indique trois textes qui vont, en gros, nous donner la temporalité et la problématique, puisque l'art de gouverner est une terminologie quand même un peu généraliste qu'il va falloir préciser. Mais en revanche, les trois textes, Savonarole, Machiavel et Guichardin, donc le prince de Machiavel, le Trattato sopra il reggimento governo nella città di Firenze de Savonarole et le dialogo del reggimento di Firenze de Francesco Guicciardini. Alors, c'est intitulé, donc d'une part, il s'agit de préciser ce qu'on entend par, ce qu'on va entendre tout au long de ce cours par l'hypothèse de l'art de gouverner. L'art de gouverner à Florence. Après le reste, c'est-à-dire Florence et une période florentine, c'est plus simple. C'est là, donc, la définition de l'art de gouverner, c'est donc un choix théorique, hein, que je vous explicite rapidement, c'est-à-dire qu'il y a... On va mettre de côté des hypothèses que le gouvernement serait une œuvre d'art, serait quelque chose à penser abstraitement, avec des critères esthétiques et théoriques. Et on va prendre ce terme dans le sens que lui donnait à l'époque, plutôt dans des expressions comme « arte dello Stato », que lui donnait, par exemple, Machiavel dans une lettre célèbre du 10 décembre 1513, envoyée à Francesco Vettori. Alors, ce point, donc, qui va nous donner donc l'hypothèse de travail, hein, c'est donc dans cette lettre dans laquelle il annonce qu'il vient d'écrire un opuscolo de principatibus, un opuscule sur les principats. Enfin. Et là, dans ce texte dont je vous ai déjà parlé, on a un passage qui mérite d'être relu et appris parce que c'est quand même la lettre De Sanctis disait qu'elle était la lettre la plus célèbre de la littérature italienne, c'est assez vrai. Hein. Mais du coup, tous les mots et toutes les expressions qui sont utilisées par Machiavel sont parfois surinterprétées. Alors je vous relis le texte parce que c'est ce passage qui va nous servir de définition de ce que nous allons entendre pendant les heures qui vont suivre, enfin jusqu'au moment où vous serez amené à aller passer le concours, pour définir notre problématique. On reviendra là-dessus sans doute dans la conclusion finale et j'invite ceux d'entre vous qui ont un peu de temps à lire un livre d'un autre professeur de l'école, hein, qui est Michel Sennard, et qui s'appelle précisément « Les arts de gouverner », hein, et qui sera un point sur lequel, bon, sans doute dans la conclusion générale, on reviendra. Donc c'est un texte qu'il avait publié aux éditions du Seuil, qui a été publié maintenant il y a plus de 10 ans, en 1995, et qui s'appelle donc « Les arts de gouverner, du régime médiéval au concept de gouvernement hein, ». Donc, pardon, ouais. Dans lequel donc, on verra qu'un des aspects du travail qu'on va faire, c'est que avec l'expérience politique et l'écriture politique des années que nous allons étudier, il y a, en quelque sorte, un changement de paradigme hein, par rapport à la tradition médiévale. Vraiment, quelque chose se passe là, en particulier, évidemment, avec les textes de Machiavel, mais nous verrons qu'il ne faut pas regarder uniquement l'arbre, parce qu'il y a une forêt, hein, mais il y a un changement de paradigme dans cette, dans cette période et dans cette période et dans cette conjoncture historique et politique qui est la Florence des guerres d'Italie. Alors, revenons au texte de la lettre à Francesco Vettori. Voilà ce qui écrit Machiavel. Donc, et perché Dante dice che non fa scienza senza lo ritenere, lo aver inteso, io ho notato quello di che per la loro conversazione, vous savez, juste avant il avait dit que il rentrait chez lui après avoir passé la journée à discuter, jouer aux cartes, etc. Voilà. Et qui s'était vêtu d'habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape, et qu'avec ces habits-là, hein, panni reali et curiali, eh bien, il se mettait pendant 4 heures de temps à discuter avec les historiens, les hommes du passé, les grands hommes de l'Antiquité, etc. Io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale e composto uno opuscolo de principatibus. Dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo soggetto, disputando che cos'è principato, di quale spezie sono, come si acquistano e si mantengono, perché si perdono. E se vi piacque mai alcuno mio ghiribizzo, questo non vi dovrebbe dispiacere. Et après avoir donc expliqué son intention dans l'écriture de cet opuscule, hein, il réfléchit par écrit, une espèce de dialogue pas éloigné avec son ami Francesco Vettori, qui est à ce moment-là ambassadeur de la République à Rome, auprès du pape, et il se demande s'il va ou pas donner ce texte aux Médicis. Et le premier Médicis auquel il pense à ce moment-là, c'est Giuliano de Medici. Hein. Vous savez que en fin de parcours, ça sera à Lorenzo, le fils de Piero de Medici. Ce sera à lui que sera dédié le livre. Et il explique auprès de Francesco Vettori le désir qu'il a. Hein, il desiderio arei che questi signori medici mi cominciassino ad operare, se dovessino cominciare a farmi voltolare un sasso. Perché se poi io non me li guadagnassi, io mi dorrei di me. E per questa cosa, quando la fussi letta, si vedrebbe che 15 anni che io sono stato a studio all'arte dello Stato, che io sono stato a studio all'arte dello Stato, non li ho né dormiti né giocati. E dovrebbe ciascheduno aver caro servirsi d'uno che alle spese d'altri fussi pieno di esperienza. Un des termes majeurs de la pensée de ces années-là est évidemment présent avec cette idée de l'expérience. Hein. Vous savez qu'elle est en quelque sorte présente dès la lettre de dédicace du prince, hein, ce qu'il a appris, hein, con una lunga esperienza delle cose moderne. Hein, un des piliers de la réflexion politique de ces années-là, et là, il faut bien l'avoir en tête, c'est l'idée de l'expérience. Voilà. Donc, de l'idée que ce travail, cette réflexion part de l'expérience et que cette expérience donne des connaissances qui sont celles, au fond, du métier. Alors, et c'est précisément la deuxième expression qu'il faut relever dans ce passage, qui est l'expression « arte dello Stato ».« Sono stato a studio all'arte dello Stato ». Alors, cette « arte dello Stato », il faut bien l'avoir en tête que pour Machiavel, Il ne s'agit pas là de l'hypothèse de une invention appuyée sur des motifs esthétiques, une pensée purement théorique, mais bien d'une pensée qui vient de l'expérience. Et il faut comprendre arte dans son sens florentin, celui de métier, celui de corporation d'un métier. Une connaissance un peu plus approfondie de la correspondance de Machiavel montre que, à plusieurs reprises, dans les échanges de correspondance entre lui et Vettori, il y a un jeu sur cette hypothèse de l'arte, hein, sur l'hypothèse de la beauté dans lequel il était. Cette beauté, c'est tout simplement ce métier de l'État dans lequel il a été astudiant, c'est-à-dire dans lequel il a été en apprentissage. Enfin, je vous donne les références, donc si vous avez l'occasion d'aller les voir, mais donc dans une lettre qu'il avait adressée quelques mois auparavant à Vettori, le 9 avril 1513, il lui explique que la fortune ayant fait qu'il ne sait raisonner ni de l'art de la seta, né de l'art de la lana, devo ragionare dello Stato. Il faut que je discute sur le fonctionnement du Stato. Voilà. De la même façon, un peu plus tard, pratiquement un an plus tard, montrer que c'est du langage courant, du langage familier, mais qui renvoie précisément à cette hypothèse de l'expérience du travail politique comme un métier. Vettori, qui veut lui demander un avis sur ce qui se passe en ce moment dans les cose del mondo, lui dit voilà, ancora che siano due anni passati, vi levasti da bottega, non credo abbiate dimenticato l'arte. On a deux termes. Vous étiez dans notre boutique, dans cette boutique où on se pose les questions matérielles de comment diriger, comment faire des alliances, comment décider ou pas de faire la guerre, comment mettre en place les formes militaires et les formes politiques qui permettent à Florence de jouer son rôle en Italie vis-à-vis des étrangers qui parcourent l'Italie dans cette époque. Eh bien, on a bottega et arte, qui est le métier que l'on apprend dans une bottega. Donc c'est bien ça, s'occuper des cose dello Stato est un métier, et c'est dans ce métier que s'est forgée la lunga esperienza delle cose moderne, qui est revendiquée comme un des points d'appui des connaissances, des savoirs que Machiavel va rappeler dans des textes comme Le Prince et les discours sur la première décade de Tite Live. Donc voilà. Donc c'est donc dans ce sens-là, dans l'hypothèse que cette réflexion sur le gouvernement, cette réflexion sur le regimento, cette réflexion sur le stato, et nous reviendrons à des moments donnés, enfin régulièrement dans l'analyse des textes, mais peut-être de façon plus synthétique, sur ces quasi-concepts, sur ces termes de référence. C'est donc savoir ce qu'on fait dans le governo, regimento, stato, c'est analyser des situations, c'est avancer pragmatiquement, c'est trouver des solutions qui sont peut-être les moins mauvaises, terminologie que vous avez trouvée à la fois chez Machiavel et chez Guichardin. Et c'est donc ce processus-là, donc un rapport entre une réflexion institutionnelle, mais au-delà, une réflexion sur les outils théoriques qui permettent de penser les formes du gouvernement, les pratiques politiques réelles qui permettent de tester pragmatiquement ce qui marche et ce qui ne marche pas, avec l'hypothèse derrière que on est dans un moment de l'histoire des pays occidentaux où il y a un tournant, un changement de paradigme, un changement d'épistémé, pour le dire à la manière des années 70 et de Foucault, par exemple, dans l'histoire de la pensée politique. Voilà. Donc, on aura tout ce questionnement, et voilà à partir de quel postulat, je développerai ce cours. Alors, les questions suivantes, c'est qu'évidemment, le fait de ne pas donner de date à la question, mais d'indiquer des textes, nous fournit quand même des éléments importants de réflexion. Bon, les textes, vous savez, il y en a un donc qui est écrit en 1498, c'est le traité de Savonarole. Un qui est écrit en 1513, on vient de le voir, c'est le prince. Un qui est écrit, qui a commencé à écrire en 1521 et qui a repris, en tout cas au moins une deuxième fois, sans doute une fois au milieu, en 1525, c'est le Dialogo de Guicciardini. La version finale, et en particulier la version finale du Proemio, celle qu'on... Vous l'avez dans le livre qui est au programme, date de 1525, mais le premier jet de cette réflexion date de 1521. Et elle reprend des questionnements que Guicciardini s'était déjà fait dans des textes antérieurs, puisque... En 1512, quand il est encore ambassadeur en Espagne, il écrit ce texte sur le gouvernement de Florence, qu'on désigne généralement sous le titre Discorso di Logroño, et que en 1516, donc au moment où, donc 1512, bientôt la République va être va être bouleversé par l'arrivée des Espagnols et le retour des Médicis, mais quand il écrit en 1512, il y a encore la République du Grand Conseil. En 1516, on est sous une période de domination des Médicis. Il écrit de nouveau un texte, donc le discours de 1516, toujours sur Governo di Firenze. Il va reprendre à trois reprises, sans compter les nombreux passages des Storie Fiorentine écrites en 1508, 1509, puis de la Storia d'Italia écrite à la fin de sa vie entre en gros 1535, 1540 avec une accélération à partir de 1537 jusqu'à sa mort en 1540. Ces questions-là ne cesseront de rester présentes, la question de la République, du fonctionnement de la République, de la possibilité de sauver la République. Voilà. Donc c'est ce moment-là qui est en jeu, et ce moment-là, eh bien, il est marqué par la présence permanente de l'état de guerre. La présence permanente de l'état de guerre. Alors, présence permanente de l'état de guerre, c'est 1494, le début, l'automne 1494, le moment où les troupes françaises dirigées par le roi de France, Charles VIII, hein, en personne, il est là, en personne à la tête de ses troupes, traversent l'Italie pour aller s'emparer du royaume de Naples. Et vous avez donc l'hypothèse que toute cette période est profondément marquée, et toute cette période, et du coup, les textes qui sont issus de cette période sont profondément marqués par le bouleversement qu'induit l'état de guerre permanent en Italie. Hein. Alors, il y a une formule qui me paraît résumer un peu l'état d'esprit des contemporains, et qui est voilà, une formule employée par Machiavel dans une lettre envoyée précisément à Francesco Guicciardini, dans laquelle il parle de toute autre chose. Enfin, c'est une lettre sur comment faire pour avoir une bonne dot pour les filles de Guicciardini. Parce que voilà, il a des filles par paquet. Et alors, c'est très compliqué, il faut les vendre. Et voilà, bon, faut trouver de l'argent, et il demande à Machiavel, qui a un peu plus de temps que lui, parce que lui, il n'a pas le temps, il a un agenda très rempli, enfin bon, il est pris, tout ça. Et il demande à Machiavel, alors, comment on va faire, c'est peut-être pas le bon moment. Et là, Machiavel lui répond, de toute façon, ça sera jamais le bon moment, hein, parce que per quanto di memoria, o si è fatta guerra, o se n'è ragionato. Voilà. Donc ça sera jamais le bon moment, on est dans une période de guerre, donc, Si tu attends pour essayer de marier tes filles que la paix soit instaurée, c'est pas la peine, elles vont rester célibataires toute leur vie, tu trouveras personne, voilà. Hein, voilà. Alors, il y a là donc l'hypothèse que il y a un très grand bouleversement. Et les termes qui disent ça, c'est des termes. Le verbe, c'est mutare, hein, mutare. Le substantif, c'est la mutazione delle cose. Hein. Et alors, normalement, là, j'ai fait alt-tab et ça devrait revenir. Voilà, je devrais avoir le texte, mais je l'ai pas. Voilà. Au secours! Peut-être quelqu'un va venir. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Enlève-toi, voilà. Et alors, le texte que je veux vous lire, c'est ça. C'est un texte, donc, de Storie Fiorentine de Guicciardini, texte de 1508-1509. Il l'écrit en 1508-1509, puis bon, voilà, il laisse. Storie Fiorentine. Et alors, c'est un passage dans lequel il décrit l'arrivée et les effets de l'arrivée. C'est vraiment un texte qui montre une acuité assez grande, enfin, de la pensée de Guicciardini. Era una parte dello esercito del re Carlo poco innanzi passate le Alpi. Donc c'est septembre 1494. Et d'après lui, personnellement, il col resto dello esercito venuto in Italia, nel quale era grandissimo numero di uomini d'arme, fanterie ed artiglierie, ma quanto non so il particolare. Il particulare, là, c'est le détail, hein, je ne sais pas précisément le chiffre. Hein. C'est un historien sérieux, c'est-à-dire quand il sait, il dit, il y en avait tant, hein, c'est très notable dans l'histoire d'Italie. Quand il sait « el particulare », il dit. Et quand il sait pas, il dit « je sais pas ». Ou quand il a plusieurs sources, il dit « certains disent tant, certains disent tant », etc. Sur le nombre des morts, sur les forces en présence, etc. Hein. Et alors, dans la salle d'Italie, il avait quand même un instrument important sous les yeux, c'est que il fait tout un travail de lecture de texte, etc. Mais il avait les archives de Florence. Hein, qu'ils avaient prise au moment de, au moment où Florence avait, avait été obligée de se rendre face aux, armées conjuguées des impériaux et des, pontificaux en 1530. C'est lui qui avait récupéré les archives chez lui, donc évidemment, c'est, ça lui permettait de savoir pas mal de fois « el particular ». Alors, l'expression là est comme ça, d'une force. « Ed era entrata in Italia una fiamma ed una peste che non solo mutò gli stati, ma i modi ancora del governarli e i modi delle guerre. » Ça pourrait être, avec l'expression de, Machiavel, hein, la lunga esperienza delle cose moderne et essere a studio all'arte dello Stato, ça pourrait être un des autres points à partir duquel on définirait notre problématique. Hein. Cette période-là, et c'est les textes qu'on a à étudier en sont l'expression. Hein, cette, période-là a provoqué la mutazione des stati, donc là plutôt à prendre dans son sens de, dans son sens territorial, on verra que c'est pas le seul, mais aussi les façons de gouverner les stati et les façons de faire la guerre. Hein. Alors, je vous lis l'ensemble du texte parce que là, il y a un tableau très synthétique hein, de la période d'avant, la géopolitique. Il fait un tableau géopolitique qu'on appellerait, nous, géopolitique, de la période d'avant cette éruption, hein, cet incendie, cette peste qui va ravager l'Italie. Au moins... jusqu'au moment où on a la victoire finale entre les deux grands, due grandi uccelli, dit-il, qui sont nelle viscere dell'Italia. Hein. Les deux grands oiseaux rapaces qui déchirent les viscères de l'Italie. L'Espagne et la France. Ça se termine au plus tôt en 1530 quand... les Espagnols ont gagné cette guerre-là. Ça dure encore un peu, mais ça dure plus. En Italie, c'est réglé en 1530. Hein. La période finale, c'est, voilà. Ça n'est réglé officiellement par un traité, qui est le traité du Cateau-Cambrésis de 1559. Hein. Mais pour l'Italie, les rapports de force sont, sont décidés. Ils sont décidés pour plusieurs siècles. Hein. Mais avant... l'entrée en Italie de cet incendie et de cette peste, eh bien, dove prima, sendo divisa Italia principalmente in cinque stati, Papa, Napoli, Venezia, Milano e Firenze, hein, les cinq stati, les cinq potentati d'Italia, les cinq qui font la politique, hein, de l'Italie, les autres petits états, etc., essayant par un jeu d'alliance, de compromis, etc., de garder leur, indépendance. Erano gli studi di ciascuno per conservazione delle cose proprie volti a riguardare che nessuno occupasse di quello d'altri ed accrescessi tanto che tutti avessino a temerne. E per questo, tenendo conto di ogni piccolo movimento che si faceva e facendo rumore eziandio, eh? Meme eziandio, dell'alterazione di ogni minimo castelluzzo, eh? Le moindre bourg fortifié, e quando pure si veniva a guerra erano tanto bilanciati gli aiuti e lenti i modi della milizia e tarde le artiglierie che nella espugnazione di uno castello si consumava quasi tutta una state, tanto che le guerre erano lunghissime ed i fatti d'arme si terminavano con piccolissima e quasi nessuna uccisione. Allora, c'est intéressant à plusieurs titres ce passage, parce que d'abord ça dit, voilà, avant, il y avait en gros un équilibre interne de l'Italie, hein, et vous savez, vous avez peut-être en tête un des passages du Prince, où il dit justement, avant que, je vais pas le retrouver, là, avant la venue du roi Charles, etc., l'Italie était, voilà, était là aussi, l'idée de bilanciat, l'idée de... dans une position d'équilibre des forces. Hein. Donc cette idée que la position avant l'arrivée des Français, c'était ça, position d'équilibre. Position d'équilibre qui était appuyée aussi sur le fait que Florence, et en particulier à Florence, Laurent de Médicis, jouait en quelque sorte le rôle d'ago della bilancia, cette idée voilà, d'équilibre dans lequel Florence jouait le rôle déterminant de le lieu où c'est permettant les équilibres de force et faisant que rien ne bougeait. La deuxième grande idée qui est là, qui est aussi une idée machiavélienne, hein, qui est aussi une idée machiavélienne, c'est l'idée que les guerres en Italie avant l'arrivée des Français voilà, étaient des guerres pour l'apparence plus que des guerres avec des morts. Vous savez, ça c'est vraiment un des grandes thèses machiavéliennes. Là, vous voyez bien que c'est un texte écrit avant le texte de Machiavel. Machiavel dit ça. C'est pas donc ça veut dire que cette idée là. Hein, cette idée de l'équilibre, et donc du coup, d'une façon de faire la guerre, plus pour l'apparence que pour la force réelle, les oppositions de force réelle, hein, c'est une idée répandue. Et Machiavel, là, n'invente pas, il développe avec sa radicalité habituelle cette thèse, mais c'est la thèse majeur, en tout cas à Florence. Hein. Alors, après avoir fait ce tableau, hein, une rupture dans l'écriture. Ora, per questa passata dei Franciosi, come per una subita tempesta rivoltatasi sotto sopra ogni cosa, si roppe e squarciò la Unione d'Italia e del pensiero e cura che ciascuno aveva le cose comuni, in modo che vedendo assaltare e tumultuare le città e ducati ed regni, ciascuno stando sospeso cominciò a tendere le sue cose proprie, né si muovere per dubitare che un incendio vicino, una ruina di uno luogo prossimo, avesse a ardere e ruinare lo stato suo. Nacquono le guerre subite e violentissime, spacciando e acquistando in meno tempo uno regno che prima non si faceva una villa. Le espugnazioni delle città, velocissime e condotte a fine non in mesi, ma in die ore, e fatti d'armi fierissimi e sanguinosissimi, ed in effetti gli stati si cominciorono a conservare, a rovinare, a dare e a torre, non coi disegni e nello scrittoio come per il passato, ma alla campagna e con le armi in mano. Donc là, c'est vraiment une autre, voilà, hein, l'idée que dans cette période-là, on ne peut pas penser la politique sans penser la guerre et l'état d'urgence qu'elle implique pour les questions de la politique. Donc on ne peut pas penser Florence sans penser la guerre, sans penser le risque que court Florence de perdre son autonomie, de cesser d'exister comme cité-État autonome, indépendante, libera, hein, terme central, un des termes centraux avec equalita, hein, de la tradition républicaine florentine. Donc, le discours de 1512, le discorso di Logroño de Guicciardini, commence par une phrase qui dit ça. Hein. Beaucoup de choses me font penser que notre cité peut perdre sa liberté. Voilà. La liberté, mais la liberté dans le sens, dans le double sens, hein, de forme d'un régime, forme républicaine de fonctionnement et indépendance, autonomie, le fait de ne pas avoir de supérieur. Donc, les temps ont été bouleversés. La question de la temporalité ne se pose plus dans les mêmes termes qu'auparavant. C'est vraiment le point. Alors, c'est des points qu'il a. Que Guicciardini a développé là, dès ce texte-là, mais qui vont rester, dans jusqu'à la fin de sa vie, hein. C'est-à-dire que cette date de 1494 est un bouleversement pour l'ensemble de l'Italie et en particulier pour Florence. Alors, pour vous donner simplement un exemple, enfin, de cette permanence de l'analyse, hein, la première page de la Storia d'Italia, hein, donc écrite entre 1535 et 1540, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, qu'est-ce qu'il décide de faire, hein, axe, c'est vraiment un choix théorique fondamental. Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, da poi che l'arme dei francesi, chiamate dai nostri principi medesimi, cominciarono con grandissimo movimento a perturbarla. Donc, geste théorique d'autant plus important que. Au départ, et on le sait par les travaux dans les archives de la maison Guicciardini, en particulier les travaux faits par Roberto Ridolfi, qui est le biographe de nos trois, hein, le biographe à la fois de Guicciardini, mais aussi de Savonarole et de Machiavel. Et on sait que Guicciardini avait commencé par écrire non pas ça, non pas ce moment-là, non pas d'appoi che l'arme dei francesi chiamate dai nostri principi medesimi cominciarono a perturbare l'Italia, mais qu'il avait en fait en tête d'écrire, de faire le récit de la partie de la guerre à laquelle il avait participé en personne en tant que lieutenant du pape, avec la mise en place de la Ligue, le cognac, et cette guerre per la libertà de la pauvre Italie, hein, qui s'était transformée en guerre qui avait amené à la servitude de l'Italie, puisque c'était cette guerre qui avait provoqué le sac de Rome en 1527, et à terme, la victoire définitive des forces espagnoles en Italie. Et donc, il commence à écrire cette lettre, cette histoire-là. Il commence avec Pavie. Puisqu'à Pavie, les Français sont écrasés par les troupes espagnoles, que le roi de France avait fait prisonnier, et qu'à ce moment-là, les Italiens se disent, ah, là, ça y est, tant qu'il y en avait deux, il y avait un équilibre, on pouvait jouer entre les deux, entre les Français et les Italiens, s'il n'y avait plus qu'un, ce un, si farà signore d'Italia. Et là, il n'y a plus de place pour un jeu des forces italiennes, des puissances italiennes, des stati italiens. Et là, donc, Guicciardini va être un des artisans de la mise en place d'un traité entre les forces italiennes, les Français, contre Charles Quint. Et non seulement il va être l'artisan de ce travail diplomatique et politique, mais il va être le représentant du pape, le lieutenant, celui qui tient lieu du pape, dans l'armée, qui est censée se battre contre les Espagnols. Hein. Et il va suivre, et alors avec la, l'arrivée d'un de ses amis là, de Florence, qui essaye à tout instant de se faire envoyer de Florence à l'armée pour être aux côtés de Guicciardini, rendre les services qu'il peut rendre, etc., qui est Machiavel. Hein. Et cette campagne militaire va se terminer en catastrophe, en prenant catastrophe au sens plein du terme, puisque les troupes de Bourbon vont s'emparer de Rome en mai 1527. Et que ça aura de nouveau des effets importants sur Florence, puisque pendant 3 ans, on va revoir ressurgir la République du Grand Conseil, hein, celle qui avait justement été née de la fuite de Pierre de Médicis en novembre 1494. Ouais. Donc, il commence à écrire ça, et il se rend compte qu'on comprend rien. Enfin, il se rend compte. On suppose qu'il se rend compte qu'on ne comprend rien si on ne part pas du début. Et le début, une fois de plus, hein, vous voyez que ce n'est pas une date comme ça qui est née dans le cerveau inventif des historiens du XXe et du XXIe siècle. C'est une date que les acteurs hein, prennent comme borne, prennent comme avant, après. Après, ça n'est plus comme avant. Et après, ça n'est plus comme avant, ça veut dire qu'on peut plus, non seulement on peut plus diriger, governare, on peut plus gouverner nos stats de la même façon, ça veut dire qu'on peut plus faire la guerre de la même façon, et ça veut dire aussi qu'on ne peut plus réfléchir de la même façon, qu'on peut plus avoir les mêmes instruments d'analyse qui étaient ceux qui avaient servi jusque-là, qu'il faut interroger, y compris les éléments qui paraissent les plus stables, les plus fondamentaux de la tradition florentine. Vous avez lu, évidemment ça c'est pour Machiavel, parce que bon, on dit que Machiavel c'est le début d'une nouvelle façon de penser la politique, et il y a évidemment du vrai là-dedans, hein, à condition de bien comprendre que c'est pas parce qu'il est plus malin ou qu'il a eu une révélation pendant la nuit, etc., hein, c'est parce que la situation politique et militaire l'a amené à travers cette expérience des choses modernes, à travers la lecture, mais la lecture passée au crible des questions du présent, à se poser différemment les questions de la politique. À mettre, par exemple, les rapports de force, la force, au centre du dispositif. À mettre la question des temps, la question de la conjoncture, ce que lui nomme la qualité des temps, la qualità dei tempi, au centre, au cœur de son dispositif d'analyse. Mais ça se lit aussi chez Guicciardini, dont vous avez vu en lisant le dialogue qu'il interroge les concepts qui paraissaient les plus naturels, enfin, ça ne s'appelait pas des concepts, mais hein, les termes, les mots. Il interroge la douceur des mots, hein, la dolcezza del nome di libertà. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc qu'on dit depuis, depuis qu'on a des souvenirs de Florence, on dit Florentina libertas, la libertà fiorentina. Hein, on disait, c'était marqué sur les étendards quand les troupes florentines se battaient contre les Visconti ou quand les troupes florentines se battaient contre les troupes pontificales pendant la guerre des 800 entre 1375 et 1378. Libertas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc il interroge, y compris les fondements. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'hypothèse de l'équalité? Vous voyez bien que c'est cette interrogation-là est devenue nécessaire. Et vous voyez moins parce que, évidemment, dans le Trattato, c'est pas l'endroit où on le voit le mieux et donc il faudra qu'on aille lire chez Savonarole, les sermons, etc. Mais que cette question-là, elle est chez Savonarole. Elle est chez Savonarole. Évidemment, c'est un dominicain, un thomiste, il reste il reste jusqu'à sa mort un dominicain, un thomiste, mais avec les instruments qui sont les siens, qui sont les instruments théoriques de la philosophie scolastique, des textes de saint Thomas commentant Aristote, il essaye de penser la nouveauté hein, de la situation. Le fait, par exemple, que, simplement pour prendre le traité, puisque les autres textes, on les a pas encore abordés, mais pour prendre simplement le traité, le fait que, partant d'une position canonique des thomistes, qui est que le meilleur gouvernement, c'est celui d'un seul, il arrive à la conclusion que le meilleur gouvernement pour Florence, c'est ni celui d'un seul, ni celui de peu, mais celui de beaucoup. Hein ? Ne serait-ce que ça, qui montre bien que, voilà, certes, il y a derrière lui, c'est un lecteur de philosophie au départ de son processus intellectuel. Et malgré ça, voilà, la conclusion est quand même un peu surprenante pour un thomiste strict, quoi. Voilà. Alors, donc ça, c'est le point important que je voulais mettre en évidence. Le deuxième point, alors, mais on le développera pas aujourd'hui, je pense, on le développera bientôt, c'est le point que, voilà, il y a un lieu spécifique dans lequel ce moment prend la tournure qui... d'où naissent les textes qu'on va étudier, hein, c'est Florence avec sa tradition républicaine, avec son attachement à la libertà, bon, hein, deux sens, hein, on reprendra plus en détail ce que, avec un peu plus de texte, etc., ce que ça veut dire, hein, mais il y a deux grands sens indissolublement liés. Donc la République, ça veut dire quelque chose à Florence. Ouais. Après 1530, Libertà n'aura plus jamais, sauf pour les exilés républicains, n'aura plus jamais le sens de forme républicaine du gouvernement, après 1530. Mais jusque-là, il a les deux indissolublement liés. Donc voilà. Et à Florence, la qualità dei tempi, hein, l'autre expression qui est plus ancienne d'ailleurs, qu'on trouve déjà dans les textes du 15e, etc., qui est la condizione dei tempi, mais qui renvoie à la même idée, hein, cette idée de comment on peut analyser la conjoncture qui est face à nous, comment on peut analyser la situation, les rapports de force qui déterminent la situation, les enjeux de la situation. Hein. La condizione dei tempi est une expression plus fréquemment utilisée par Guicciardini. Et cette conjoncture ouverte par la guerre, hein, c'est la fin d'une longue période, c'est 60 ans, de domination des Médicis sur la cité. Alors, ils vont revenir. Hein, ils partent en 1494, ils reviennent en 1512, ils sont de nouveau chassés en 1527, ils reviennent en 1530, et là, ils partent plus. Ils partent plus, ils restent pendant deux siècles. Hein, ouais, bon. Alors, vous voyez bien que ça amène à une réflexion théorique d'ordre un peu général. Si on travaille sur les longues périodes, sur les longues durées, etc., bon, c'est quoi? 94, 1512 et 1527, 1530, c'est rien. Hein? Dit Florence est médicéenne de 1434 à 1767. Ouais. Bon. Sauf que ça a des effets, et parmi les effets, eh bien, nos textes, qui sont pas des petits textes. Et alors que, bon, le prince, le prince, c'est quand même un texte quand même un texte important et qui est encore présent. Pourquoi je vois plus, moi? On voit pourquoi je vois plus. Je vois plus sur l'écran. Bon, bah, je regarderai. Donc, ils naissent de ça. Ils naissent de ce moment qui n'est rien à l'échelle des longues périodes. Hein, entre voilà, la période 1434 et 1767, on peut se dire qu'au fond, voilà, hein, c'est pas un grand truc, quoi. Voilà. En tout cas, on peut dire que ce qui va se mettre en place, c'est une forme politique nouvelle qui va donner le point de référence à la discussion sur les formes du gouvernement pendant toute la période jusqu'en 1530 et un petit peu au-delà, quoi, un petit peu au-delà parce qu'il y a encore des exilés qui écrivent, etc., au-delà de cette période, hein, et qui est donc quelque chose de déterminant dans toute la réflexion. Ça y est. Cette forme-là n'a jamais existé à Florence. Elle vient, hein, d'une réflexion sur le gouvernement vénitien. Hein. Consiglio Maggiore des Vénitiens. Mais elle a des caractéristiques très différentes parce que la façon dont ça se met en place indique que, au fond, on va essayer de mettre là-dedans, et il y aura là-dedans, dans ce Grand Conseil, pas seulement, contrairement à Venise, où c'est que les patriciens qui sont dedans, mais justement pas seulement des, ce qu'on appelle les oligarques, enfin les grandes familles, mais qu'il y aura aussi des artigiani, des gens issus des arts mineurs, hein, des gens qui auront pignon sur rue, mais qui auront des boutiques, qui auront des ateliers. Évidemment, il n'est pas question à cette époque de penser que les gens qui n'ont à donner que leur force de travail soient des citoyens. Ça, hein, faut pas faire d'anachronisme là-dessus. Mais dans le Grand Conseil, il y a toute une partie du Grand Conseil qui vient des arts mineurs, qui vient donc de la partie qu'on appelle les artigiani, hein, voilà, et pas seulement des riches, des membres des familles les plus importantes. Donc cette situation, elle amène nos penseurs là à réfléchir. Et c'est quand même un des points clés de l'ensemble de ces textes, à réfléchir de façon pragmatique. Hein. C'est ce qu'on appelle soit le pragmatisme, soit le réalisme. Hein. C'est vraiment l'introduction de la nécessité de voir les choses en face et de penser en choses telles qu'elles sont réellement. Et alors, il y a cette formule de Machiavel, hein, qui est une formule centrale de Machiavel, hein, qui est dans le chapitre 15 du Prince, hein, et où il explique que ce qu'il faut faire, c'est andar drieto alla verità effettuale della cosa. Hein, et ne pas se contenter de la imaginazione di essa. Vous savez que ça se termine par, là aussi ça nous donne une indication très, très nette sur l'ensemble des textes sur la politique qu'on va étudier. E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti in vero essere. Donc avec l'idée qu'on retrouve dans le dialogue de Regimento Differenza, hein, qu'il faut trouver, il faut réfléchir à partir de ce qui est vraiment verità effettuale della cosa, hein, effettuale. Effetti, c'est à la fois, il faut vraiment entendre les deux sens dans le terme, hein, les faits, partir des faits, et partir des effets. Alors vous entendez bien la récurrence de ce terme dans le dialogue del Regimento Differenza, hein, gli effetti del governo, non le spezie, ma gli effetti del governo. Hein, il ne faut pas raisonner, vraiment. Ça fait partie du discours récurrent de Bernardo. Me dites pas de quelle espèce. Voilà, réfléchissons sur quels effets sont produits par telle ou telle forme. Parce que c'est celui, on dira que le gouvernement le meilleur est celui qui produit les meilleurs effets. Ou plutôt, on dira que le moins mauvais gouvernement, c'est celui qui produit les moins mauvais effets. Et on trouve une formule. Donc, là aussi, elle est tirée du dialogue de Regimento Differenza, hein, la formule qui dit la natura delle cose, la natura delle cose in verità. Voilà. Et vous savez, donc, dans le dialogue, on va trouver, hein, de façon très très nette, l'idée qu'il y a un risque à se laisser aveugler par la splendeur des mots, hein, alors qu'il faudrait considérer la sostanza delle cose. Hein. Vous voyez, là, il y a une unité, enfin, assez grande, et qu'on peut retrouver à certains moments chez Savonarole, hein, qui est aussi, d'une certaine façon, avec les instruments qui sont forcément les siens, qui sont les instruments théoriques qui viennent de la pensée religieuse, hein, on trouve des choses semblables. Donc là, dans le petit texte, là, tout petit peu après, on trouve dans les sermons sur AG, hein, des formulations semblables sur le fait qu'il faut tenir compte, hein, de quelque chose qui ressemble bien aux hypothèses qu'on a déjà vues, à savoir la qualité des temps, les mutations, les, hein, mutazioni e diversità dei tempi. Il faut tenir compte de ça. Et qu'il faut adapter les choix politiques, les choix institutionnels qu'on va faire à cette réalité de la situation ouverte par l'arrivée bouleversante de Charles VIII et de ses troupes. Voilà. Alors, là, vous avez des petites dates comme ça qui resituent très clairement les moments. Hein. Donc, vous voyez que c'est des moments liés à la guerre à tout instant. Maintenant, on va retourner un peu plus précisément sur la question de la guerre. Donc, 1494, arrivée des Français, et très très vite, hein, en deux mois, novembre-décembre 1494, le 23 décembre, il y a les lois sur l'instauration du Grand Conseil. La défaite de Savonarole et de ses partisans et l'exécution de Savonarole en 1498 ne transforme pas fondamentalement les choix qui ont été faits en 1494. Il y a simplement un changement des rapports de force à l'intérieur de la cité. Simplement, il y a en 1502, à la suite vraiment d'une série de difficultés très très grandes, provoquées entre autres par les tentatives de César Borgia de jouer un rôle déterminant dans la région et sans doute de s'emparer même de Florence, amène à ce que les Florentins décident d'ajouter à cette grande transformation institutionnelle qui avait été l'instauration du Grand Conseil, d'y ajouter l'établissement d'un gonfalonierat à vie. Vous savez qu'avant, hein, Le gonfalonier était élu pour 2 mois. Et la signorie a été élue pour 2 mois. Donc, comme stabilité, comme stabilité gouvernementale, évidemment, c'est un peu compliqué, quand même. Hein, c'est un peu compliqué. Et ces dates-là, 98, sont aussi des dates importantes. 1498, c'est aussi une date importante pour Machiavel, puisque c'est après, vraiment un mois après, qu'il est élu secrétaire de la seconde chancellerie. Hein. Donc voilà, c'est le moment où il va rentrer dans cet art dello Stato, hein, qui va rentrer dans la bottega du travail politique et diplomatique. L'élection de Pier Soderini est aussi un point important pour Machiavel, puisque Machiavel est un conseiller très écouté de Pier Soderini et de son frère, hein, qui est l'évêque Francesco Soderini. Et qu'en particulier, c'est Machiavel qui sera chargé d'essayer de mettre sur pied une forme d'organisation militaire pour le Stato fiorentino, pour la Repubblica fiorentina, hein, qui va être l'ordinanza fiorentina. Hein. Et ça nous rappelle qu'on ne peut pas dissocier les questions de la politique et de la guerre, qu'on ne peut pas dissocier vie civile et vie militaire. Alors, 1512-1527, retour des Médicis, 1512, c'est par un basculement très rapide des rapports de force à l'échelle de l'Italie, une victoire dans une bataille qui est la bataille de Ravenne, victoire française, mais qui a comme résultat que le capitaine français, le général français, est tué au combat et que, du coup, l'armée française, en quelque sorte, se volatilise. Et que, du coup, une armée espagnole peut venir tranquillement mettre à sac Printemps, assiéger Florence. Pier Soderini est amicalement incité à s'en aller au plus vite. Il s'en va. Très vite, les Médicis rentrent avec les troupes espagnoles et remettent en place, suppriment le fonctionnement du Grand Conseil et remettent en place des institutions qu'ils contrôlent. Ça reste une république, mais comme elle était avant 1494. 1527, là aussi la date est complètement liée au bouleversement militaire. 1527, c'est le sac de Rome par les troupes espagnoles et allemandes, par les lansquenets de Franzberg et les Espagnols dirigés par le duc de Bourbon. Le pape Médicis Clément VII est d'abord encerclé, puis prisonnier quand il s'est rendu dans le château Saint-Ange. Résultat immédiat à Florence, les Médicis et ceux et leurs principaux ministres s'enfuient, et les républicains florentins remettent en place le Grand Conseil, ils remettent un gonfalonier, mais ce coup-ci pas à vie, mais pour un an. Et il y a une nouvelle période, ce qu'on appelle la Seconde République, qui va se terminer comme se terminent les combats où les rapports de force sont très inégaux, qui va se terminer par la victoire des assiégeants, c'est-à-dire les forces impériales et les forces pontificales. Mais après un siège de 8 mois, et si vous avez en tête le premier des records de Guicciardini, eh bien, vous vous rappellerez qu'il dit qu'on ne croyait pas qu'il tiendrait 8 jours, ils ont tenu 8 mois. Et maintenant, on arrive même à se demander s'ils n'ont pas gagné. Bon, ils n'ont pas gagné parce que les rapports de force, c'est les rapports de force. Hein. Mais enfin, bon, voilà, ils devaient tenir 8 jours, ils ont tenu 8 mois. Alors, voilà. Donc vous voyez, un moment complètement marqué par, par les événements militaires des guerres d'Italie. Alors, très brièvement, là, on revient un peu en arrière, les grands. Voilà. Les grands moments de ces guerres d'Italie et la prochaine fois on commencera à étudier en mais plus précisément les effets sur Florence, hein, pas simplement à grands traits là, c'est simplement pour vous fixer quelques points de repère à Florence, hein. Donc là avec Jean-Louis Fournel, on a fait un petit livre qui s'appelle Les guerres d'Italie. Voilà, c'est un vraiment tout petit livre, hein, donc vraiment ça se lit en 5 minutes. Enfin, un peu plus que 5 minutes, mais pas beaucoup plus. Qui fait le point. C'est le seul ouvrage de synthèse sur les guerres d'Italie. Donc, Les guerres d'Italie, des batailles pour l'Europe. Qui est publié donc dans la collection Découverte chez Gallimard. L'autre intérêt de ce petit livre, c'est qu'il est, comme on dit, richement illustré. Enfin, et que c'est pas mal d'avoir. Donc ils sont tous là, quoi. Hein. Il y a Savonarole, il y a César Borgia. Ils sont tous venus, quoi. Hein. Voilà, il y a les papes. Enfin bon, tout ça. Voilà, donc très très brièvement avec quelques rapports à des textes, si c'est jouable. Non, il n'y a rien qui marche, il est pourri le truc là. Bon. Je fais semblant que tout marche bien, mais ça ne marche pas là. Hein, je fais semblant que tout est parfait, la technique est parfaite, mais j'ai rien sur mon écran. Bon, alors, donc. Les grands moments, c'est ça. La descente de Charles VIII, 1494. Il arrive, ils prennent l'Italie avec des craies et des éperons de bois, dit Philippe de Comines. Et vous savez que, alors, il paraît que c'était une expression que avait utilisée le pape. La craie, c'est la craie des fourriers. Les fourriers, ils ont une journée d'avance sur le gros de la troupe. Ils vont dans un village et ils disent « Là, on mettra la compagnie machin. Là, on mettra la compagnie truc. » C'est ça, c'est la craie. Et les éperons de bois, c'est ceux qu'on met quand on n'a pas à se battre sur les chevaux. Ouais. Il semblerait, enfin, en tout cas, Philippe de Comines, qui était là, hein, il était présent, l'attribue au pape Alexandre VI. Alors, et Machiavel emploie l'expression hein, un peu plus ramassée, comme il en a l'habitude. Pigliare l'Italia col gesso, dans le prince. Pigliare l'Italia col gesso. Voilà. Alors, ils vont à Naples, etc. Tout va bien. Mais là, les Italiens se rendent compte que, quand même, il est passé un peu trop facilement. Quoi. Et donc, il y a une ligne anti-française à partir de 1495, de mars 1495. Et le roi de France, pour ne pas être bloqué en Italie, remonte au plus vite vers. Vers la France, il arrive à passer malgré les troupes. Bon, enfin, il passe, il n'est pas en très bon état, quoi. Quand même, il est obligé de laisser tous ses chariots, etc., dans les mains des ennemis. Et bon, ça ressemble plus à une fuite, mais à travers l'ennemi, ce qui est quand même plus glorieux que de fuir dans l'autre sens. Il fuit à travers, ce qui est bien, mais enfin, c'est quand même ça. Il passe à travers. il manque de se faire tuer. Enfin bon, il y a beaucoup de pertes françaises. Enfin voilà. Mais enfin, il rentre. Mais son successeur, en gros, on dit, voilà, les Français ont un pris de chemin, quoi. Et quand même, Naples, Milan, etc. Alors, la deuxième grande phase, c'est donc ce moment-là, qui évidemment est très présent, donc on reprendra tout ça quand on étudiera les textes en détail, mais c'est le chapitre 3 du Prince. Hein, c'est le chapitre 3 du Prince. Voilà. Et donc, tous les détails de cette période-là, hein, l'avenue de Louis XII, et puis l'alliance avec les Espagnols pour s'emparer du royaume de Naples, hein, c'est tout ça, c'est des points que Machiavel analysera, et en particulier dans le chapitre 3 du Prince. Voilà. Voilà. Et en particulier, je vous lis simplement le petit passage sur comment Machiavel analyse l'alliance entre les Français et les Espagnols. Il fait la liste des erreurs, hein, vous savez. 5 erreurs majeures. 5 errori. Spenti i minori potenti, accresciuto in Italia potenza a uno potente, c'est l'Église. Messo in quella, en Italie, uno forestiere potentissimo, c'est les Espagnols. Non venuto ad abitarvi, non vi messo colonie. Alors, li quali errori ancora vivendo lui potevano non lo offendere se non avessi fatto il sesto di torre lo Stato a Veneziani. Oui, fait les 6 erreurs de Louis XII. Pourquoi les Français, hein, alors que il dit avant, consideri ora uno con quanta poca difficoltà poteva retenere l'Italia la sua reputazione. Hein, c'est quand même pas compliqué. 6 erreurs. Donc 5 gigantesques. Et non seulement il a fait 5, il a fait une 6e. Et là, terminé pour lui. Hein. Et alors, le petit passage sur les Espagnols. Non li bastò. Ça lui a pas suffi, quoi. Non li bastò aver fatto grande la chiesa e toltosi gli amici. Et alors, notez bien que quand il dit ça, quand il écrit ça, toltosi gli amici, c'est eux, les Florentins, nous, les Florentins, quand il écrit. Hein. Il avait des amis fidèles qui ont risqué la vie de la cité, risqué les possessions de la cité, perdu Pise, etc., pour défendre les Français. Et il a soutenu les autres qui sont venus nous casser les bonbons. Bon. Et en particulier César Borgia qui essayait bien de venir nous couper les poils du nez. Bon. Et non seulement il a fait ça, mais en plus, hein, non gli bastò aver fatto grande la chiesa e toltosi gli amici, che per volere il regno di Napoli lo divise con il re di Spagna. E dove egli era prima arbitro di Italia, vi mise uno compagno a ciò che gli ambiziosi di quella provincia e malcontenti di lui avessino dove ricorrere. E dove poteva lasciare in quel regno un re suo pensionario, egli ne lo trasse. Non, il aurait pu tranquillement s'entendre pour que les rois du royaume de Naples soient pensionnario, hein, soient en gros dépendent de lui. Egli ne lo trasse per mettervi uno che potessi cacciarne lui. Hein? Et là, vous avez vraiment une charge à la fois très vigoureuse et, comme vous voyez, avec une ironie noire, enfin. Hein? Dove era prima arbitro d'Italia, vi mise uno compagno. Pourquoi? Pour que tous ceux qui voulaient se battre contre lui puissent aller s'appuyer sur le roi d'Espagne. Vraiment, le nul complet. Hein, le nul complet. Voilà, ça, c'est Louis XII. Hein, Louis XII dans cette période-là. Alors, un point aussi important qui est très récurrent dans les discours, dans les lettres et dans Prince 12-26, c'est cette période, là, voilà, donc période avec le pape Jules II, et donc c'est la dernière erreur de Jules, la dernière erreur de Louis XII, c'est Torre lo Stato Veneziani. Torre lo Stato ai Veneziani. Alors une défaite, voilà, dans un endroit qui s'appelle, qu'on appelle en général, on l'appelle Agnadel, la bataille d'Agnadel en français, hein, mais pour les Italiens, c'est plus fréquemment soit la bataille de la grève, hein, mais au sens, le lit de cailloux, la Ghiara d'Adda, hein, c'est le fleuve qui sépare la Lombardie de la Vénétie. Ou Vaila. C'est sous ce terme-là que Machiavel en parle dans Prince 12-26. Hein. Et là, vraiment, Venise va perdre pratiquement toutes les terres de terre ferme, tous les territoires de terre ferme, et puis mettra vraiment un bon bout de temps avant d'en reprendre presque tout, mais au prix d'une politique dès lors, d'une politique absolue de neutralité en Italie. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent plus, ils ont compris. Ils ont compris leur douleur. Hein. Ils ont compris leur douleur. Hein. Alors, Machiavel ne peut pas avoir... si vous avez lu un peu de discours, un peu des discours, vous avez compris, il passe son temps à dire du mal de Venise, sans doute aussi parce que pour une partie des Florentins, Venise, c'est le modèle alternatif au modèle romain. Que lui, évidemment, défend le modèle romain. Hein. Et donc, dès qu'il peut dire du mal des Vénitiens, il n'hésite pas, il dit du mal des Vénitiens. Alors, dans Prince 12-26, là, il résume comme ça la bataille de Vaila, parce qu'il fait tout un passage... Donc, les Vénitiens, tant qu'ils ont fait la guerre eux-mêmes, et en particulier sur la mer, eh bien, operorno virtuosissimamente, ma come cominciorno a combattere in terra, lasciorno questa virtù e seguirno i costumi delle guerre d'Italia. Les costumi delle guerre d'Italia, c'est... les condottières, les armées qui sont des armées mercenaires, des guerres où il n'y a pas beaucoup de morts, etc. Hein, qu'on fasse ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Costumi della guerra d'Italia, donc celle d'avant. Ouais. Alors, anno di poi, et donc il parle précisément des chefs condottières, les capitaines condottières de Venise, donc c'est dans paragraphe 26 du chapitre 12. Hanno di poi avuto per loro capitani Bartolomeo da Bergamo, Roberto da Santo Severino, Conte di Pitigliano e simili, con li quali avevano a temere della perdita, non del guadagno loro, parce que quand ils avaient le comte de Carmagnol, là, il devait craindre qu'il gagne. S'il gagnait, c'est lui qui s'emparait de leur état. C'est vraiment toute sa thèse sur les armées mercenaires, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. Parce que ou ils sont mauvais, ils te font perdre, ou ils sont bons, et à ce moment-là, ils risquent de prendre eux la direction de l'État, voire, par exemple, les Sforza qui prennent, qui prennent Milan. Non. Come intervenne di poi a Vaila, donc c'est cette bataille, hein, la bataille Garadada ou Agnadello, dove in una giornata, perderno ciò che in 800 anni con tanta fatica avevano acquistato, perché da queste armi nascono solo e lenti, tardi e deboli acquisti e le subite e miracolose perdite. Hein. Terminologie qui est importante parce que cette expression-là, hein, les miracolose perdite, hein, eh bien, c'est une expression qui revient plusieurs reprises dans des textes de Machiavel. Hein. Elle revient dans des lettres, hein, des lettres, des legazioni et commissarie, hein, dans une lettre du 8 février 1508. Hein. Et elle est également dans l'art de la guerre, hein, dans l'art de la guerre, où il l'applique vraiment très clairement à 1494. Hein, je vous lis dans la traduction française. De là naquirent, c'est la fin du livre 7, hein, pratiquement les dernières lignes du livre 7 de l'art de la guerre. De là naquirent en 1494 les grandes épouvantes, les soudaines fuites et les miraculeuses défaites, hein, les miracolose perdite. Et ainsi, trois très puissants états d'Italie ont été plusieurs fois mis à sac et pillés. Mais ce qui est pire, c'est que ceux qui nous restent demeurent dans la même erreur, c'est les princes qui dirigent l'Italie, hein, demeurent dans la même erreur et vivent dans le même désordre. Enfin, c'est la toute fin de l'art de la guerre, qui est un des textes qu'il faudra que vous lisiez. Il n'y a pas à lire tout le texte, mais lire les dernières pages, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Donc, pendant cette période, le pape Jules II joue un rôle important. Alors, vous savez que Jules II, c'est pareil, c'est un des personnages importants du prince, personnage important du chapitre qui a fait couler le plus d'encre. Enfin, ils ont tous fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Mais en gros, ceux qui ont fait couler des flots, c'est le bloc des chapitres sur l'anti-miroir des princes, 15-19, hein, les chapitres 15-19. Et puis, le chapitre sur la fortune. Le chapitre 25 sur la fortune. Ça, c'est vraiment là, il y a des bibliothèques entières sur ces questions-là. Et vous savez que le personnage du chapitre 25, c'est le pape Jules II. Hein. Le pape Jules II, parce que voilà, le pape Jules II procédait, papa Julio II, procédait in ogni sua azione impetuosamente, c'est le modèle de l'impétueux. Vous savez qu'il oppose deux modèles, le rispettivo, l'uomo rispettivo, et l'uomo impetuoso. Et il dit, ça marche très bien pour chacun d'entre eux quand leur nature, le fait d'être impetuoso ou le fait d'être respectivo, s'adapte à la qualité des temps. C'est un des chapitres où il utilise cette terminologie. Mais s'il vient des temps où il faudrait être respectivo et qu'on est impétueux, là on est mort et vice-versa. Hein? Et non est uomo si prudente che sappia accomodarsi a questo. Et pour Jules II, donc voilà, il papa Giulio II procedait in ogni sua azione impetuosamente e trovò tanto i tempi e le cose conforme a quello suo modo di procedere che sempre sortì felice fine. Vraiment, condusse Giulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro pontefice con tutta la umana prudenza avrebbe condotto. Io voglio lasciare stare le altre sue azioni che tutte sono state simili e tutte gli sono successe bene. E la brevità della vita non gli ha lasciato sentire il contrario, perché se fossino sopravvenuti tempi che fossi bisognato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina, né mai avrebbe deviato da quegli modi agli quali la natura lo inclinava. E allora, cette idée-là, eh bien, c'est pas d'hier qu'il l'avait derrière la tête, c'est-à-dire qu'il l'a pas inventé en 1513 en écrivant Le Prince. Il l'avait déjà dans un texte qui s'appelle Giribizzi, hein, les caprices Giribizzi, les bricoles, c'est des caprices, des trucs comme ça. des sornettes. Hein, vous vous rappelez dans la lettre, il dit, dans la lettre à Vettore, et se vi piacque mai alcuno mio gribizzo, questo non vi dovrebbe dispiacere. Et donc, il avait écrit une lettre à Soderini, qui en fait le neveu de Piero Soderini, Giovanni Battista Soderini, et c'était donc une lettre qu'il lui avait écrite comme ça en 1506. Et dès 1506, vous voyez la citation, hein, questo papa, c'est Jules II, che non ha né stadera né canne in casa, c'est, il sait ni peser les choses, la stadera, c'est une balance romaine, hein, né canne, il n'a pas de quoi mesurer, hein, la canne, c'est, voilà, c'est le maître de l'époque. Questo papa che non ha né stadera né canna in casa, a caso, con seguita e disarmato, non, senza la umana prudenza, hein, dont il parle dans le prince, a caso, disarmato, là, c'est le pire, disarmato, quello che con l'ordine e con l'armi difficilmente gli doveva riuscire. Alors pendant cette période, il y a une bataille, donc cette bataille dont je parlais tout à l'heure, qui a eu lieu le 11 avril 1512, hein, et sur lequel Machiavel revient dans le dernier chapitre pour réfléchir à que devra être la forme de l'infanterie qu'il faut mettre en place, hein, cette l'ordine terzo della fanteria, capable à la fois de s'opposer à la cavalerie, mais aussi de se battre contre les autres fantassins. Voilà. Alors, les autres points, c'est donc très brièvement la partie, voilà, l'arrivée du roi chevalier, hein, François Ier, qui succède à Louis XII, qui lui aussi a pris le chemin de l'Italie. Et à partir de l'élection de Charles Quint en 1519, l'enjeu, ça devient vraiment une opposition, hein, une opposition frontale entre Français et Espagnols. Et en gros, les Français, après des succès brillants au début, la date que tous les Français connaissent, hein, 10 ans après, connaissent une cuisante défaite, puisque le roi de France est fait prisonnier, et que le résultat de ça, c'est une victoire qui passe par le sac de Rome, puis par l'échec des Français devant Naples en 1528, et qui aboutit au couronnement de l'empereur Charles Quint à Bologne en 1530. Le fait que tous les Italiens sont désormais obligés de reconnaître la prédominance en Italie des Espagnols et Florence comme les autres. Florence, la dernière,